Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Odo Radio. Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, bien sûr, vous connaissez parfaitement le slogan. Voilà, toujours ravi de vous retrouver, bien sûr, comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal d'information locale et culturelle. Réalisé en direct, donc le midi, rediffusé à 15h à 18h. On rappellera juste avant d'annoncer le sommaire comment nous suivre. La bande FM 91.3 dans quasiment tout le département de la Gironde. Odoradio.fr, bien sûr, comme tout site. Des infos sur la vie de la radio, des reportages, des coordonnées, mais surtout la possibilité de venir en temps de voir télécharger toutes nos émissions. Et j'aime bien le rappeler, hein, ça peut paraître lourd, redondant, mais... Quand il y a des nouveaux auditeurs, c'est important de rappeler bien qu'on peut venir entendre, voir télécharger. C'est gratuit en plus, qui plus est. Donc s'il y a une thématique, un invité, une motivation qui vous interpelle, eh bien vous pouvez revenir posément les écouter. Et on est rediffusé également à 15h, pas entre eux, mais à 15h et 18h, plus les relais avec les réseaux sociaux. Et troisième moyen que je n'oublie pas pour nous suivre, c'est le DAB ou DAB+, cet acronyme anglais qui a collé à quasiment toutes les radios. C'est la radio numérique terrestre. Et en ce qui concerne Odo Radio et toutes les radios numériques de la région bordelaise, du bouquet numérique offert en région bordelaise, eh bien, il y a une zone territoriale très définie. Eh bien, c'est la métropole bordelaise, c'est quand même un vaste territoire. Allez, ça c'est important de le rappeler. Le sommaire du journal et du magazine à suivre ce vendredi 6 février. En ce qui concerne le journal, c'est Hugo qui va nous décliner quelques brefs d'infos d'ici quelques instants. Ravi de retrouver aussi Gilles Guibert, délégué régional Épilepsie France. On va en parler à la fois la journée internationale, rappeler ce qu'est l'épilepsie, donner quelques petites infos, conseils, etc. Pour la partie musicale, Odo Radio partenaire de plusieurs événements, mais là on écoutera Jérôme Solaire, groupe qui sera en concert demain à la salle des fêtes de Caigrac dans le Médoc pour un concert au profit de Kids Sans Frontières. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure, histoire d'aller à l'essentiel sur le sommaire. Et comme tous les vendredis, le magazine thématique qui suit juste après le journal, donc 12h30 pour le direct, c'est le magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cesso. Et justement aujourd'hui, Maître Paul Cesso va parler notamment, parce que c'est toujours un riche programme, il va parler notamment des conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, notamment par le travail. Voilà, ce sera juste en suivant, car pour ouvrir tout de suite notre journal en ce vendredi 6 février, c'est donc Hugo qui vient nous présenter, décliner quelques brefs d'infos. Bonjour Hugo.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. Commençons ces brefs par Bordeaux Métropole qui a annoncé reconduire son mois de la collecte numérique pour la troisième année consécutive. Du 2 au 31 mars 2026, les habitants des communes de la métropole pourront donner les objets électroniques qu'ils n'utilisent plus pour leur offrir une seconde vie. Concernant la rive droite, plusieurs points de collecte seront disponibles. À ce nom, il faudra aller à la maison des associations pour pouvoir donner. À Florac, il faudra aller à la maison des savoirs partagés. À Lormont, ce sera la salle Abel Dominguez et la médiathèque du Bois Fleuri. À Carbon-Blanc, ce sera l'hôtel de ville. Et enfin, à Bassens, ce sera à la médiathèque au fil du jeu. Le lundi 9 février, un lieu d'accueil enfants par an sera ouvert l'après-midi de 15h à 17h30. Ce sera à la crèche du Nuage Enchanté à Bassens. Les parents pourront venir avec leurs enfants de 6 ans maximum pour un moment calme dans un environnement prévu à cet effet. Aucune inscription n'est nécessaire et l'entrée est gratuite. D'autres ateliers similaires auront lieu le 13, le 23 et le 27 février. Toujours à Bassens, du 10 au 12 février aura lieu un atelier de découverte de MAO, musique assistée par ordinateur. L'association Effort de Conscience a mis en place 3 jours d'initiation à la MAO, le tout sur inscription, mais gratuitement. Le mardi après-midi, les participants découvriront le logiciel. Le lendemain matin, ils découvriront les rythmiques. Et enfin, le jeudi après-midi, ils pourront créer leur propre musique. Tout ceci aura lieu à la médiathèque François Mitterrand de Bassens. Du 9 au 13 février à Senon, un atelier danse hip-hop aura lieu dans le cadre du Mois de la Danse 2026. 3 tranches d'âge auront 3 créneaux horaires différents. De 14h30 à 16h, les personnes de 11 ans et plus pourront, pendant 1h30, s'adonner à des cours de danse. Plusieurs forfaits seront disponibles selon la durée du cours et le nombre, mais comptez 75€ maximum pour faire toute la semaine. Cette action aura lieu au complexe sportif multi-activité de la Morlette. Enfin, pour terminer, du 9 au 13 février, un stage sportif est organisé à Bassens pour les enfants du CP à la 6e. De 9h à 16h30, pendant 5 jours, plusieurs activités sont prévues, comme du football, du vélo, du basket, de l'ultimate et enfin une journée à la piscine. Ces sports seront entrecoupés de moments plus calmes avec de la lecture et de la relaxation. 32 places sont à pourvoir et une inscription est nécessaire pour pouvoir participer.
Allez, merci Hugo pour ces quelques brèves et on va accueillir bien sûr notre invité du jour, comme il se doit, Gilles, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour Joël, bonjour à tous.
Voilà, Gilles Guibert, délégué régional Épilepsie France. Alors c'est vrai que Gilles, on a toujours plaisir à vous retrouver, alors certes...
Plaisir partagé.
Sans j'en doutais pas, on fera un petit clin d'œil à quelques soirées qui ont été réalisées, j'ai pu rencontrer des bénévoles également de l'association. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette journée internationale de l'épilepsie, mais c'est un combat d'information, de communication, notamment à mener tout le long de l'année. Alors, je sais que vous êtes ce 9 février, bien sûr, il va y avoir pas mal d'actions. Mais Gilles, comme chaque fois, c'est important de rappeler ce qu'est l'épilepsie. Hein. Alors, moi, j'ai plein de chiffres, vous en avez aussi, mais je sais que vous savez vraiment synthétiser et vulgariser. Donc, dans un premier temps, nous rappeler ce qu'est l'épilepsie et quelles en sont, j'allais dire, les manifestations, symptômes, entre guillemets.
Oui, merci Joël et bonjour à tous. Alors, effectivement, lundi prochain, c'est la journée internationale de l'épilepsie qui se déroule chaque année dans 140 pays à travers le monde. C'est le deuxième lundi du mois de février et donc ça tombe bien, ça tombe ce lundi 9 février. Alors, l'épilepsie, c'est quoi ? Mais en fait, c'est une maladie neurologique chronique qui est souvent caractérisée par la récurrence spontanée de crises qui, elles, sont toujours brèves, toujours imprévisibles et de fréquence et d'intensité variables. Il y a plusieurs types de crises. Hein, je vais faire vraiment schématiquement. Hein. On a des crises partielles parce que on dit partielles parce que ça touche une seule partie du cerveau. Et ça peut prendre des formes tellement différentes parce que le cerveau est tellement important que on peut avoir des troubles auditifs, des troubles moteurs, des troubles du langage, même des troubles olfactifs qui se dégagent. La deuxième type de crise, ce sont les crises qu'on appelle généralisées, parce que là, ça touche l'ensemble du cerveau. Et là, pour le coup, ça implique très, très souvent une perte de conscience. C'est-à-dire, pendant qu'une personne fait une crise, elle n'a plus conscience du tout de ce qu'elle est, d'où elle est et de ce qui se passe. Souvent, chez les très jeunes enfants, ce sont ce qu'on appelle les absences. Hein, c'est la même chose que si je suis un peu tête en l'air. Voilà, je regarde dans les nuages, hop, je m'absente. Sauf que lorsqu'on est en tête en l'air, on est parfaitement conscient de ce qui se passe autour de nous. Là, une absence, c'est vraiment une rupture. La personne ne sait pas du tout où elle est et elle est en pleine crise. L'autre, celle que l'on a en tête, hein, lorsqu'on parle d'épilepsie, c'est forcément les crises de convulsion, hein, où là, la personne perd conscience, tombe et convulse ensuite. Hein, ça, ce sont ce qu'on appelle les crises généralisées. Voilà, c'est les deux grand type de crise hein, que l'on peut distinguer.
Voilà, je vous écoute avec attention, bien sûr. Gilles, passe parmi les conseils, parce que c'est vrai que... Voilà, alors on fait un petit coucou, hein, notamment à Jérémy et tant d'autres, bien sûr. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, le premier réflexe, on se pose la question, parce que souvent c'est très court, hein, oui. Gilles, oui, oui. Il me semble, et c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on ne sait pas toujours comment agir, on ne sait pas toujours diagnostiquer. Alors quand on connaît quelqu'un et puis qu'on sait qu'il peut avoir des crises, il y a quand même quelques conseils, hein, vous allez nous rappeler.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce qui est le plus important et ce qui est le plus difficile à appréhender, encore une fois, comme la crise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient, ça peut intervenir à n'importe quel moment. Si on ne sait pas, en plus, que la personne fait une crise d'épilepsie, si on ne sait pas ce que c'est, eh bien, on ne sait pas quoi faire. On voit la personne comme ça, par exemple, hein, si je prends le cas le plus spectaculaire, hein, forcément, la personne tombe, convulse, mais voilà, qu'est-ce que je fais ? Et c'est ce sentiment de ne pas savoir quoi faire qui est le plus gênant pour les personnes et du coup qui met mal à l'aise. C'est vraiment ce « qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» En fait, dans ces cas-là, et lorsque on a une personne qui fait une crise d'épilepsie, que ce soit une crise d'absence ou d'ailleurs une crise de convulsion, le plus important à savoir, c'est qu'il n'y a rien à faire.
Si ce n'est que sécuriser la personne.
Si ce n'est effectivement de sécuriser la personne. Pourquoi on parle de sécuriser ? Parce que lorsque une personne est sur le domaine public, on est sur le trottoir, là, une crise d'épilepsie, malheureusement, elle va tomber. Elle va tomber. Si elle se fait pas mal à côté de ça, eh bien, on va sécuriser la personne. Si elle est sur le trottoir, on va l'éloigner un peu du bord de la route, déjà, par exemple. Si on est dans une pièce, eh bien, on va écarter un peu les tables, les chaises, tout ça qui sont à côté, parce que La personne, pendant les convulsions, les membres vont être secoués. Il ne faut surtout pas tenir les membres de la personne qui fait une convulsion. Au contraire, il faut vraiment laisser la crise s'échapper. On va soutenir la tête, par contre, ou mettre quelque chose sous la tête, parce que si la tête elle-même tape et tape contre le sol, bah, forcément, on le sait tous, ça va faire plus de mal que de bien. Mais en l'occurrence, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de médicaments à donner, il n'y a pas d'eau à donner, il ne faut pas faire boire une personne qui va convulser, parce qu'au contraire, elle peut s'étouffer, hein, puisqu'elle ne contrôle pas, encore une fois, son corps. Et on va attendre, justement, que la crise se passe. Le plus dur, finalement, c'est attendre que la crise se passe, une fois qu'on a mis la personne en sécurité. On ne parle pas de PLS non plus hein, à ce moment-là, hein, on est d'accord. D'ailleurs, lorsqu'il y a des convulsions, on est incapable de mettre une personne en position latérale de sécurité, hein, ce qu'on appelle. Mais ça ne sert à rien puisqu'il faut vraiment que la crise se passe. Par contre, une fois que la crise est passée, oui, là, bien sûr, on met la personne en PLS, en position latérale de sécurité, tout simplement parce que comme ça, ça va lui éviter... lorsqu'elle va reprendre conscience, si elle vomit, de s'étouffer avec son vomi, hein, ou de pouvoir mieux respirer. Ça, c'est la première chose. Et surtout, on reste à côté d'elle, on la rassure, on lui parle, pour que le cerveau, lorsque la crise se termine, généralement, tu l'as dit, hein, Joël, c'est très court, c'est entre 2-3 minutes, hein, le temps moyen. Si ça va plus loin que 2-3 minutes, là, on commence à s'inquiéter. Là, on va appeler les pompiers. Surtout si on ne connaît pas la personne. Hein, on dit, voilà, on appelle les pompiers, on appelle le 112, le 15. Je dis, voilà, j'ai une personne devant moi qui fait une crise. Je pense que c'est l'épilepsie, je pense que c'est les convulsions. Je ne la connais pas, il faut appeler. De toute façon, il faut appeler. Si la personne, en tombant, s'est blessée, bien sûr, il faut appeler les pompiers. Là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème. Par contre, si on sait que la personne que l'on a, on la connaît, on sait qu'elle est épileptique, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'appeler les secours, encore une fois, sauf si elle s'est blessée. Mais si elle ne s'est pas blessée et qu'on connaît la personne, il n'y a pas besoin d'appeler les secours. Elle est généralement traitée, donc elle prend un traitement. On attend que la personne reprenne conscience, refait surface un peu, hein, si je prends cette image. Et à ce moment-là, on va l'aider, parce que comme il y a eu cette perte de conscience, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui s'est passé puisqu'elle n'a pas su prévenir la crise. Et donc, à ce moment-là, on est là, on la rassure, on la parle doucement et on attend vraiment que la personne reprenne quelque part conscience, bien, tranquille, peut nous parler, peut nous répondre. Là aussi, ça va prendre quelques minutes supplémentaires, mais c'est le plus important parce qu'au moins, ça va permettre à la personne de dire « Bon, voilà, je suis tranquille, je suis rassuré, tout s'est bien, je sais où je suis, je sais quelle heure il est. » Et on peut continuer à vivre.
Est-ce qu'il peut y avoir, à chaque fois je repose les mêmes questions un petit peu, parce qu'on s'adresse à tout le monde. Pour la personne, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ou pas du tout ? C'est-à-dire qu'on peut connaître le fait que quelqu'un puisse faire des crises, mais pour la personne elle-même, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ou pas du tout ?
Alors en fait, c'est ça qui est très compliqué dans l'épilepsie, c'est que ça dépend totalement de la personne et de son épilepsie. On a effectivement certaines personnes qui nous disent après coup, oui, j'ai senti un petit goût dans la bouche ou j'ai senti un petit flash ou ça allait pas. Et si la personne, on va dire, prête attention à ces petits signes, elle peut, là pour le coup, alors ça va pas faire disparaître la crise, hein, on est d'accord, la crise va de toute façon arriver. Par contre, elle va avoir le temps de se mettre en sécurité. C'est-à-dire qu'elle est debout, hop, je vais m'asseoir ou je me pose tranquille. Et au moins, s'il y a une chute, je tombe de moins haut. Mais généralement, effectivement, on ne sent pas la crise arriver. La personne épileptique ne la sent pas arriver, ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et du coup, c'est ce côté un peu, cette appréhension, hein, cette épée de Damoclès que l'on a autour de elle, qui fait que souvent, les personnes épileptiques ne sortent pas de chez elles. C'est ça qui ce renfermement, en fait, finalement, qui fait que les personnes se coupent socialement parce que, disons, si je sors, je vais faire une crise. Donc, pour éviter que je fasse une crise, alors en fait, c'est l'inverse. Hein, si on sort, on a une activité sociale, là, on va avoir moins de pression, on va avoir moins de stress, on va vivre la vie normalement. Et là, pour le coup, il va y avoir moins de crises. Mais comme on a toujours cette peur de la chute, c'est vrai qu'on a tendance à s'enfermer. Donc non, malheureusement, souvent, les personnes épileptiques ne sentent pas les crises arriver.
Voilà, puis là, c'est un point essentiel, bien sûr, dont vous avez parlé, Gilles. C'est vrai que quand on sait qu'on est épileptique, on n'a pas toujours des amis, on s'isole, souvent on se met des freins. Parce que, et puis même, on en avait déjà parlé, bien sûr, Gilles, ça peut être même des amis qui se disent, bon, mais voilà, s'il fait une crise pendant la soirée, donc du coup, soi-même, on met des freins. Et là, ça ne permet pas d'avoir une vie, j'allais dire, entre guillemets, normale, une vie lambda, d'où l'intérêt bien sûr de mieux faire connaître l'épilepsie, donc sans nous donner des cas d'école, malheureusement trop, et puis heureusement qu'il y a des associations dont vous faites partie, parce que ça permet d'échanger des infos, mais là sans nous donner des exemples forcément concrets, mais voilà, l'isolement ça nous rajoute en plus la personne du stress et puis peut-être d'autres...
C'est souvent la double peine, hein, puisque alors on parle là de l'isolation sociale, mais c'est souvent lorsqu'on est plus jeune, tout simplement à l'école. On a d'autres cas, et on le sait tous dans les actualités, qu'on a des problèmes de harcèlement, etc. Mais on imagine bien qu'une personne épileptique qui a déjà du mal dans ses apprentissages, parce que l'épilepsie a une grosse répercussion sur les apprentissages de la personne, hein, ça ralentit. On prend un médicament pour soigner l'épilepsie, mais on n'en guérit pas. Et ce médicament lui-même a pour fonction de ralentir le cerveau. Donc forcément, la personne épileptique qui prend des médicaments, qui va avoir son épilepsie stabilisée, mais elle a un rythme d'apprentissage plus bas que les autres. Ça peut générer donc déjà des moqueries. Mais en plus, si la personne, le jeune, fait une crise pendant la classe, forcément, déjà, alors c'est impressionnant, ça peut être impressionnant. Et puis, souvent, ensuite, les jeunes autour de lui disent bon, on va peut-être pas l'inviter parce que là, on a prévu de sortir, on a prévu de faire une partie de foot. Hein, j'exagère, on va plutôt se retrouver autour d'un Mario Kart ou d'un jeu vidéo tous ensemble. On m'a dit que l'épilepsie, c'était pas bon pour les jeux vidéo, donc on va pas l'inviter. Alors qu'en fait, c'est pas tout l'inverse. Généralement, les personnes épileptiques n'ont aucun problème pour le faire, les jeux vidéo.
En termes de sport, il y a le sport adapté aussi. Hein.
Exactement.
Donc heureusement qu'il y a quand même des ouvertures, bien sûr.
Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec l'épilepsie, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut surtout adapter les choses. Tu parlais du sport, effectivement, on peut faire du sport, il n'y a aucun problème. Par contre, si on adapte son rythme, si on adapte le sport, ça va être quand même beaucoup plus bénéfique que d'y aller à fond et de ne pas pouvoir suivre et puis ensuite de faire une crise. Les jeux vidéo, encore une fois, les personnes épileptiques peuvent faire des jeux vidéo, sauf si elles sont photosensibles, parce que là, pour le coup, les jeux vidéo ou les cinémas ou la télé, à partir d'un certain moment ou de certaines images, ça va faire en sorte, certaines vidéos sur YouTube, les personnes épileptiques ne vont pas pouvoir les regarder parce que c'est ça qui va déclencher, qui peut déclencher les crises. Donc forcément, pour se protéger, dans les jeux vidéo, il y a toujours cette notion, attention, personne épileptique, s'abstenir. Oui, mais c'est pas vrai pour tous. Il y a des personnes épileptiques qui ne sont pas photosensibles, elles peuvent très très bien jouer aux jeux vidéo et pourraient bien sûr retrouver leurs petits copains à jouer à Fortnite ou à je ne sais plus ce qu'on appelle maintenant ou à GTA.
Je crois que Hugo,
il y a un nouveau GTA qui va sortir. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est
ça permet d'avoir du lien après, de jouer en réseau. Ça permet d'avoir des liens forts. Alors, sans donner beaucoup de chiffres, mais quelques chiffres. Hein, la joie, je pense qu'ils ont été actualisés. Plus de 700 000 personnes en France, pour pas exemple, sont concernés. Alors, avec l'association Epilepsie France, alors on va juste dire quelques mots. Ce lundi, comme chaque année, c'est un combat, j'allais dire, quotidien, bien sûr, mais là, quand il y a une journée comme cela, qui est plus internationale, ça permet d'avoir un focus, d'en parler. Donc là, vous serez présent, comme chaque année, sur... Là, j'ai pas été vérifié, année, vous êtes à l'hôpital Pellegrin.
C'est ça. Voilà. En fait, on profite...
Alors, quel type d'action, ce lundi, justement, mener ?
On profite, effectivement, de cette journée internationale. Déjà, encore une fois, on vous remercie de l'invitation, parce que O2 nous suit depuis plusieurs années maintenant, et c'est un vrai plaisir. Donc ce lundi 9 février, à destination des familles qui veulent des renseignements, qui veulent ou malheureusement dont les enfants sont épileptiques, on sera donc à l'hôpital des enfants, donc côté pédiatrie, juste avant les admissions, hein, donc on est accessible à tous. On tiendra un stand avec une autre association, NeuroRêve, qui elle est une association des infirmières hein, en neuropédiatrie. Et on viendra là, donc, à destination des familles, leur donner des informations, les renseigner, les rassurer, et voilà, essayer de communiquer encore une fois sur cette maladie.
Donc, ça, c'est l'information, contact direct, même des familles qui vous côtoient, c'est un moment d'échange.
Un moment d'échange en disant voilà, j'ai ça qui s'est passé, est-ce que tu peux nous aider, est-ce que c'est normal ou pas, j'ai un dossier à la MDPH à faire, comment je fais, voilà, et elles peuvent venir nous voir, bien sûr, et on les renseignera avec plaisir. Et puis en plus, on a les infirmières avec nous dans le service, donc ça se passe super bien. Donc ça, c'est le lundi 9 février. Et puis le mercredi 11 février, ben on fait la même chose, mais côté adulte. Là, du coup, on fera au niveau des consultations en neurologie.
Donc toujours au CHU.
Toujours au CHU de
Pelgar. Après, là, on part de Bordeaux, mais bien sûr, comme c'est une association nationale, je pense que dans notre métropole, il y aura le même type d'action.
Hein. Oui. Alors, vous retrouvez, si vous êtes sur un autre département, hein, que ce soit en Dordogne ou dans les Landes, voilà, on a sur le site epilepsie-france.com toutes les informations, toutes les actions qui sont répertoriées près de chez vous, dans vos départements, dans vos villes. Vous nous retrouvez, on a plus de 80 bénévoles hein, qui sont présents toute cette semaine, puisque oui, le lundi 9 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie, mais on essaye voilà, sur cette semaine, finalement, hein, de faire un maximum d'informations, de faire un maximum de communication pour que les familles qui sont concernées, les personnes qui sont concernées, nous connaissent et essayer de rompre un peu cette stigmatisation et leur dire, voilà, rejoignez-nous. Oui, bien sûr, on a besoin d'adhérents comme tout le monde, mais c'est surtout, venez chercher l'information si vous en avez besoin, partagez vos problèmes, partagez vos soucis sur le quotidien, parce que ça, on peut vous aider et on est là pour ça.
Alors, j'ai le joueur de l'heure qui tourne allègrement. Moi, je vais juste faire un petit référentiel. Voilà, l'an dernier, dans le cas de Jeunesse Influente, hein, vous avez pu répondre à des questions de jeunes et de moins jeunes. Donc ça, il faudra que je retrouve la date exacte parce qu'on pourra y accéder
en podcast, en
replay. Enfin, moi, j'appelle ça le replay. Pardon. Mais c'est pas joué. Non, vous excusez pas. C'est pas joué sur les mots. Voilà, et c'est vrai que là, vous aviez un petit peu plus de temps pour répondre. Là, juste pour les personnes qui nous écoutent, parce que l'association, bien sûr, tout le long de l'année, vous êtes là. Si jamais il y a des parents, parce qu'on peut découvrir à n'importe quel âge, eh bien l'épilepsie. Et c'est vrai qu'on est comme pour d'autres pathologies, j'allais dire. Donc, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Et notamment l'association, donc site internet. Donc, ça permet d'échanger. Par exemple, un parent qui dit, ben voilà, on vient de découvrir que notre fille est épileptique. Donc là, je pense qu'on se pose des tas de questions. Donc là, il peut y avoir un échange. Il y aura d'autres journées, pas la journée internationale, bien sûr, elle est unique, mais il y aura d'autres moments de groupe de parole, d'échange.
Exactement. Je te connais, Joël. Tu me connais, effectivement. Oui, on organise hein, sur la Gironde une fois par mois un café. Voilà. C'est plus un groupe de parole, c'est un café rencontre.
Oui, c'est plus joli en même temps pour la présentation.
Exactement, c'est plus agréable. On partage un moment entre nous, d'échange effectivement sur cette maladie, directement donc avec les patients, une fois par mois. Souvent, c'est à Cap Science. Généralement, on va aussi au Jardin Pêcheur, un restaurant au débouché du Pont Chaban. Ensuite, une fois par trimestre, on fait un spécial pour les parents, un spécial pour les aidants. On fait un café des aidants, où là, parce qu'on n'a pas les mêmes questions, les familles viennent et on répond à tout. Mais souvent, les parents et les aidants n'ont pas les mêmes questions. Donc là, on fait un petit focus pour eux. Et d'ailleurs, le 21 mars, prochaine journée sur le Café des aidants, on va faire une action spécifique avec la Croix-Rouge qui va nous aider justement à faire une formation sur les gestes qui sauvent, puisqu'on est parents, d'accord, mais parfois on ne sait pas non plus ce qu'il faut faire lorsqu'il y a quelque chose, hein, lorsqu'on découvre cette maladie. Donc là, avec la Croix-Rouge, on va leur faire une formation sur les gestes qui sauvent le 21 mars et ça va se trouver au Jardin Pêcheur, le restaurant au boucher du Pont Chaban.
Très bien. Mais écoutez, Gilles, là, malheureusement, on va en rester là. Bon, j'espère qu'un minimal essentiel a été dit. Je vais repartager, bien sûr, ces infos via les réseaux sociaux. Et donc là, si on va voir quelques liens, donc site internet. Pour Épilepsie France, où il y a des déclinaisons par département ou région.
Alors, non, oui, justement, on a le site epilepsie-france.com qui, du coup, va recenser toutes sur la partie notre réseau. Vous allez dans notre réseau et vous retrouvez par département toutes les actions qui se font, nos contacts, les contacts, l'adresse mail 33@epilepsie-france.fr, donc pour la Gironde forcément, et .com pardon, et là vous allez retrouver toutes les informations sur le site, les nouveaux dépliants, et c'est vraiment le site de référence actualisé sur l'épilepsie.
Voilà, bien merci beaucoup hein, Gilles.
Merci à vous.
Épilepsie, tous concernés, agissons ensemble, je crois le slogan 2026.
C'est ça. Merci Joël, voilà. Merci aux deux radios.
Merci, avec plaisir. Et puis toutes ces infos, voilà, on va essayer de suivre ou de nous les envoyer. Donc Gilles, merci. Puis à travers de votre voix, bien sûr, on salue tous les bénévoles.
Et un petit coucou à Jérémy qui est avec nous.
Voilà, mais on va en parler en antenne. Il y aura certainement d'autres rendez-vous. Mais Jérémy, si tu nous entends, voilà, bien sûr, on pense à toi. Et puis voilà, à toutes les personnes voilà, que j'ai pu rencontrer, moi personnellement, lors des événements où il y avait des membres de l'asso. Mais ça, on va en reparler. En tout cas, merci beaucoup, Gilles.
Merci à vous.
Regardez, on est bien dans le timing. Donc, dans quelques instants, vous allez retrouver, je rappelle, le magazine juridique et social Défendez-vous, nouveau numéro. Hein, mais je rappelle qu'on peut retrouver tous ces magazines. Hein, vous allez sur le site internet, un journal, comme ça, vous avez également plein d'infos. Allez, on va remercier la régie technique, Elliot à la régie technique. Bien sûr, Hugo pour la présentation, réalisation de bref. Merci encore à vous, Gilles Guibert, hein, délégué régional Épilepsie France. Et là, juste le temps d'une pause musicale. C'est vrai que sur ce week-end, il y a plein d'événements qu'on essaie de soutenir. On a eu plein d'invités. Et là, ce sera donc un concert au profit de l'association Kids Sans Frontières, une association qui aide les enfants en difficulté du tiers-monde. Et ce sera un concert à la salle des fêtes de Cayrac dans le Médoc, ce samedi 7 février, donc demain de 17h30 à 23h. Là, il fallait faire des choix chaque jour, mais on a essayé de diffuser chacun des artistes, voilà, qui viennent bénévolement, bien sûr. Le concert va se dérouler en accès libre, participation au chapeau, donc on soutient l'association, restauration sur place. Et outre GAG, Jérôme Solaire Group, dont on va écouter un titre, il y aura également Mozovan. Là, on est plutôt dans la composition française. Soutrium, pop rock. AZB, c'est de la funk music. José and Friends, latino pop. Enfin, un petit coucou à José, hein. Voilà, qui est l'un des organisateurs, l'initiateur en tout cas de cet événement. Donc là, je l'ai dit, plutôt ambiance latino-pop. Et pour clôturer ce plateau artistique, The Crazy Light Train. Voilà, j'ai un magnifique accent, je sais, c'est la funk music. Voilà, et il y a d'autres événements, bien sûr, que l'on soutient. Mais pour l'instant, voilà, JAG en concert demain et en suivant, le magazine juridique et social Défendez-vous.
Le magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Et bonjour à tous, vous êtes bien sûr de radio pour votre magazine du vendredi midi, défendez-vous. Dans cette veille de vacances au moins scolaires, nous allons faire un petit topo sur les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, notamment par le travail. Pourquoi ? D'abord parce que on est sur les 2 ans de la loi du 26 janvier 2024 et que les dispositions de l'article 435.4, donc qui prévoit les métiers en tension, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026, que nous sommes donc en février 2026 et qu'il reste 11 mois et qu'il va falloir commencer à s'activer, disons, pour préparer et envoyer son dossier au regard d'un certain nombre de... enfin, au regard des délais de traitement des préfectures. On ne sait pas encore si le dispositif sera prolongé ou pas par la suite, tout dépendant assez vraisemblablement du climat politique, du résultat des élections qu'il pourra y avoir d'ici là. Mais nous serons fin 2006 très proche des prochaines campagnes décisives. Alors il faut ici faire un mix des textes applicables, des pratiques et des circulaires. Circulaires qui, rappelons-le, peuvent dire ce qu'elles veulent, puisque les tribunaux considèrent qu'elles ne sont, d'une manière générale, pas opposable. Alors avant, donc tout ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour est prévu par les articles L435.1 et suivant du Code de l'entrée des séjours des étrangers et des droits d'asile, qu'on désignera sous son acronyme CESEDA, qui a donc été modifié par la loi du 26 janvier 2024, dernière loi d'envergure en matière de droit des étrangers avant la prochaine, puisque l'on n'aime pas nous laisser nous reposer sur une connaissance juridique acquise et que l'on nous impose dans cette matière des changements constants qui sont impossibles à suivre pour l'ensemble des personnes agissant en la matière, préfecture comprise. Quoi qu'il en soit, nous avions donc auparavant 3 articles, un quatrième a été rajouté, celui sur l'admission exceptionnelle au séjour, métier en tension. Les préfectures, ou en tout cas localement, considèrent que l'article 423 du Code d'entrée et de séjour d'étrangers et droit d'asile, qui est relatif à l'octroi de plein droit d'une carte vie privée familiale pour les personnes qui ont leur vie privée familiale en France, pour résumer grandement, mais qui n'entrent pas dans, dans d'autres catégories comme parents d'enfants français, conjoints français, etc. Donc il s'agirait d'une admission exceptionnelle au séjour. Ce n'est pas le cas dans la mesure où le texte prévoit qu'il s'agit d'un titre de plein droit. Mais il est vrai que lorsque l'on reçoit quelqu'un qui s'engage dans une démarche de régularisation, en tout cas qui se pose la question de savoir dans quelles conditions il pourrait avoir la meilleure chance d'obtenir une régularisation, on va regarder la vie familiale et après les conditions, en même temps, les conditions d'admission exceptionnelle au séjour, puisque même si ça fait l'objet de dispositions séparées, toutes est relativement imbriqué, puisque dans chaque situation l'on regardera l'ensemble, dans chacun on regardera l'ensemble de la situation de l'intéressé. Donc on se concentrera là simplement sur l'admission exceptionnelle au séjour. Je commencerai par la fin, c'est-à-dire par ce nouvel qui ne l'est plus, puisqu'il y a 2 ans mais en opposition au texte antérieur, de l'article 435.4, que je ne lirai pas en entier, mais juste un petit peu certains termes pour bien faire comprendre que, outre le fait que l'on est dans un chapitre 4 qui s'appelle « Admission exceptionnelle à séjour », ça revêt quand même un caractère assez exceptionnel. Puisque le texte commence par « à titre exceptionnel », virgule, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, virgule, blablabla, étranger qui remplit telle condition peut se voir délivrer. On aura bien compris que le texte est passé au forceps avec force négociation et que au final les termes utilisés font bien comprendre que on s'avance sur des sables mouvants. Alors au-delà de ces considérations, donc il vaut mieux bien remplir quand même les conditions qui sont prévues par les textes. On verra que ce n'est pas suffisant, mais il faut inévitablement que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, le dossier est renvoyé assez vite. Donc, quelles sont les conditions? Il faut que on ait une personne qui a exercé une activité professionnelle salariée, donc on parle des salariés, figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, donc dans un métier en tension, pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois, et qui occupe un emploi relevant de ces métiers, et qui justifie une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 ans en France. Et donc à ce moment-là, on se voit délivrer la carte de séjour portant mention travail temporaire ou salarié d'une durée d'un an. Alors, on a des conditions qui tiennent à l'activité professionnelle, on a des conditions qui tiennent à la résidence en France. Sur la résidence en France, au titre de ce texte, on nous demande au moins 3 ans. 3 ans, mais il est prévu que les périodes de séjour ou d'activité professionnelle salariée exercées avec les titres de séjour saisonnier ou en tant que demandeur d'asile ou étudiant ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire que vous avez un titre de séjour étudiant, ça va être le plus simple. Vous avez votre titre de séjour arrive à expiration, on ne peut pas se servir de ce texte pour faire la passerelle vers un titre de séjour salarié. Après, on peut tout tenter, mais le texte l'exclut. Par exemple, également, si on a été demandeur d'asile jusqu'à il y a un an, on ne peut pas se servir de ce texte, puisque on nous demande une résidence de 3 années, sans prendre en considération les périodes de demandeur d'asile, les périodes de travail, de titre de séjour saisonnier et les périodes de titre de séjour étudiant. Alors, cette durée de 3 ans est une durée minimale. Évidemment, s'il y a plus de présence en France, c'est mieux. Et ça aidera au dossier, même si ça ne fait pas tout. Autre condition, c'est qu'il faut avoir exercé une activité professionnelle, donc salarié, figurant dans la liste des métiers en tension. Nous avions un arrêté du 1er avril 2021 qui n'avait jamais été mis à jour, sauf à propos des métiers agricoles. Lorsqu'il y a eu une première crise agricole, nous étions, je crois, en 2024, qui a été enfin, puisqu'il n'était plus à jour depuis un moment, modifié par un arrêté du 21 mai 2025, qui est aujourd'hui donc en vigueur. Alors c'est un arrêté qui fixe région par région, donc Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, etc., les métiers en tension, et qui peuvent être, enfin qui sont en tout cas considérés comme étant en tension, et qui sont donc variables de région en région, même s'il y a certaines constantes, notamment au niveau des métiers agricoles, et pas seulement. Donc je vais pas faire la liste là, mais on a un certain nombre de métiers dans lesquels on peut retrouver, c'est régulièrement des personnes sorties de séjour parce que ce sont des métiers vraiment en tension, dans lesquels on peine à recruter des salariés, comme dans les agents d'entretien de locaux, les agriculteurs salariés, les aides à domicile et aides ménagères, les cuisiniers, les employés de l'hôtellerie, pour ce qui concerne la Gironde, je parle, la Nouvelle-Aquitaine, des maçons, des ouvriers non qualifiés du gros œuvre ou du second œuvre du bâtiment, des ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment, par exemple, il y en a d'autres, serveurs de café, restaurants, pêcheurs, etc. Donc il faut que le métier soit sur cette liste. Il faut qu'on ait exercé un métier sur cette liste pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois. Il faut aussi occuper un emploi, il faut occuper encore au présent où on fait la demande. Il ne faut pas avoir occupé donc seulement, il faut avoir occupé et occuper encore un emploi qui relève de ces métiers et zones. Alors, ça veut dire qu'il faut faire sa demande quand on est encore avec, sur un métier et en train effectivement de travailler. Si on vient d'arrêter de travailler, on ne peut plus utiliser ces dispositions. On peut se rabattre sur d'autres dispositions à voir, mais on ne peut plus utiliser celles-ci. On peut avoir effectué des emplois auprès de différents employeurs dans le passé pour cumuler, pour arriver aux 12 mois, mais il faut au présent, lorsqu'on dépose la demande, et ça sera vérifié de toute façon, bien avoir un métier qui est un métier en tension. Là, même remarque que tout à l'heure, sur leur durée de résidence en France, que soit la durée de résidence en France, on exclut les périodes de résidence en France sous couvert des titres de séjour saisonniers, étudiants et demandeurs d'asile. Là également, sur la période de travail, on va exclure les périodes de travail qui ont été réalisées sous couvert des mêmes titres de ces mêmes titres de séjour. Alors en pratique, alors le texte pose d'autres conditions. On nous dit que la préfecture prend en compte la réalité de la nature des activités professionnelles de l'étranger, mais aussi son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion au mode de vie et aux valeurs de celle-ci, aux principes de la République. Voilà, donc là, en gros, il nous faut une bonne intégration. Il va falloir en justifier au maximum par des attestations, des justificatifs qu'on a fait du bénévolat ou ce genre de choses. C'est toujours bien d'avoir un maximum d'éléments et on voit bien qu'on prend en compte aussi la situation familiale. S'il peut y avoir des enfants sur le territoire scolarisés et ceux de la famille qui est déjà en France, qui peut être de nationalité française, etc. On nous a dit déjà qu'on prend en considération le respect de l'ordre public, c'est-à-dire que s'il y a des mentions sur le fichier traitement des antécédents judiciaires, ça va commencer à devenir très compliqué. Et il est expressément précisé qu'on ne peut pas bénéficier de ce type de séjour si on a fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance qui est mentionnée sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, c'est-à-dire en gros si on était condamné et que cela figure sur le B2. Mais comme l'alinéa juste au-dessus nous dit qu'on prend en considération le respect de l'ordre public, même s'il n'y a pas une mention sur le B2 et qu'il y a simplement des mentions sur des fichiers, cela peut ressortir toutefois. Cela ressortira et ça peut être ennuyeux. Toutefois, là, s'il y a une condamnation, c'est même pas la peine d'espérer faire une demande de titre de séjour sur le fondement de ce texte et de toute façon, d'une manière générale. Désormais, en pratique, dès qu'il y a une condamnation, voire même simplement des mentions à otage, donc le fichier traitement des antécédents judiciaires, simplement des mentions sur des fichiers, d'obtenir une régularisation est quasi impossible. Ça va être très compliqué. Il y a maintenant des refus quasi systématiques sur ces dès qu'il y a une notion de trouble à l'ordre public, mais même pour n'importe quoi. Même pour une infraction qui a été sanctionnée par une simple amende avec sursis, pour n'importe quoi, il y a des difficultés. et même sur les renouvellements des titres de séjour, la préfecture préférant au final manifestement s'en remettre à l'appréciation du tribunal, peut-être donc à la fois pour respecter les instructions qui sont données et pour, en cas de difficulté, reporter sa responsabilité sur les décisions prises par les juges. Et c'est évidemment pas écrit, c'est moi qui le dis, mais je vois très bien les politiques faire ce genre de raisonnement, trouillards comme ils sont. Donc voilà, donc en pratique, on fait la demande, la circulaire nous dit que on est censé avoir un traitement dans les 90 jours, mais en pratique, ce n'est pas le cas, en tout cas pas sur la Gironde, mais on constate quand même qu'il y a un traitement de ces dossiers plus rapide que les autres, c'est-à-dire sur une admission exceptionnelle à séjour classique, on va dire, on a quand même bien 18 mois d'attente ici. Sur ce titre-là, on va dire qu'on peut s'en sortir avec 6 mois, avec 6 mois d'instruction. Quelle est la réponse ? La réponse, c'est pas parce que vous avez un bon dossier que ça va être accepté. Par contre, c'est vraisemblablement parce que vous avez un mauvais dossier que le dossier sera. Si vous avez un mauvais dossier, le dossier sera refusé. Et si le dossier est bon, il ne sera pas nécessairement accepté, puisqu'on a vu que le texte prévoyait, à titre exceptionnel, sans que les conditions soient opposables, etc. Donc il faut, au-delà de cela, avoir un peu de chance. Et bien monter son dossier. Ensuite, en pratique, il faut savoir quand même que... Alors, à la base, le texte a été justifié, notamment par M. Darmanin, par l'idée de sortir les étrangers de la contrainte de faire une démarche avec l'employeur, comme c'est le cas sur l'article 435.1, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, pour peu qu'il me reste un tout petit peu de temps, et que j'abrège ici mes commentaires. C'est l'étranger, sur 435.4, c'est l'étranger qui fait sa demande. Bon, il évoque évidemment sa situation professionnelle, sauf que, en cours de procédure, vous allez avoir un courrier qui va être adressé à l'employeur. Le courrier est est formulé de manière à faire peur, vraisemblablement pour que les employeurs ne répondent pas, puisqu'on les renvoie sur après compléter un formulaire très vite, très rapide sur un site sur lequel ils s'engagent au final à maintenir dans l'emploi si le titre de séjour est accepté et refuser licencier si le titre de séjour n'est pas accepté. Mais le courrier que l'on reçoit parle de sanctions, etc. Ce qui fait que il ne faut pas avoir un employeur très frileux et on se retrouve au final dans la situation antérieure que si l'employeur ne va pas répondre, le dossier n'aboutira pas. Et donc on se retrouve toujours au final conditionné au bon vouloir de l'employeur, alors qu'a priori le texte à la base avait été pensé, en tout cas c'est ce qui avait été expliqué, différemment. Donc imaginons que ça ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? Assez vraisemblablement, on va recevoir une OQTF, refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, qu'il est toujours possible de contester devant le tribunal dans un délai de 30 jours. On a vu que le texte était posé tellement de conditions exceptionnelles et laissé une telle marge de manœuvre à l'autorité administrative que les tribunaux opèrent sur ce type de dossier un contrôle assez limité. Si c'est oui, on reçoit une carte portant la mention travailleur temporaire ou salarié d'une durée d'un an. Voilà. Alors, ce que la question se pose ensuite du renouvellement, mais ça, c'est un autre débat. En réalité, les premières demandes concrètes ont véritablement été lancées à partir de l'arrêté du 21 mai 2025, c'est-à-dire il y a 7 ou 8 mois. Donc on commence à voir les premiers titres qui arrivent, parce que la liste des métiers antérieurs était n'était vraiment pas à jour et ne correspondait pas à la réalité majoritairement des emplois occupés. Qu'est-ce qui se passe, et j'en terminerai par là, même si c'est un petit retour en arrière, si la liste des métiers est changée en cours de procédure, pas de chance. Alors oui, c'est prévu par la circulaire, si la liste des métiers est changée, en tout cas, l'administration est censée faire l'appréciation la plus favorable pour l'étranger. C'est-à-dire si le métier est sorti de la liste en cours d'instruction, on continuera à instruire. Si le métier rentre sur la liste alors que ça fait 6 mois que vous êtes dessus, vous bénéficierez de l'antériorité. Mais tout ceci, évidemment, on a compris, comme c'était exceptionnel, etc. L'administration peut faire ce qu'elle veut, pas totalement non plus. Le texte antérieur existe toujours, coexiste, et continuera d'exister normalement après la sortie du garde d'article 435.4, qui était donc l'article 435.1. Il est moins long, mais donc, puisque là, c'est l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qui fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire, salarié, travailleur temporaire, vie privée, familiale. Cet article existe depuis maintenant, depuis plus de 10 ans maintenant. Il a changé de numérotation, mais c'est à peu près le même texte. C'est sous cet article qu'avait été prise la circulaire Valls du 29 novembre 2012, qui est restée en vigueur, quoique non opposable, jusqu'à la circulaire Retailleau. Circulaire Retailleau du 23 janvier 2025, dont on fête, entre guillemets, pas certain que ce soit une fête, l'anniversaire, et qui pose des critères, qui est beaucoup plus court, qui pose des critères beaucoup plus stricts. L'idée étant ici de limiter grandement l'admission exceptionnelle au séjour, puisque le petit 1, c'est recentrer la procédure d'admission exceptionnelle au séjour sur son caractère exceptionnel. Voilà. Donc, on retient surtout exceptionnel plutôt que admission. Et a priori, les médias se font écho de ce que, clairement, cette procédure se retrouve grandement limitée, ce qui est logique dans la logique dans la logique des textes. Alors là, il faut justifier une situation exceptionnelle, ça peut être ou une situation humanitaire, ça peut être beaucoup de choses au final, conditions d'appréciation qui sont très, très vastes. Là où la circulaire Valls évoquait les enfants scolarisés depuis 3 ans, il nous disait que les gens qui travaillaient dans un métier qui était en tension, mais sans nécessairement que ce soit sur la liste, parce que bon, la liste n'est pas nécessairement exhaustive des réalités économiques du pays. Et là, on nous disait que il fallait 3 ans exceptionnellement, mais bon, sinon 5 ans de présence en France, ça pouvait passer. Là, on est vraiment recentré sur caractère exceptionnel. Donc on nous dit préservation de l'ordre public. Bon, en gros, s'il y a quelques notions de trouble à l'ordre public, que ce soit, comme je l'indiquais tout à l'heure, au plus dur, ça sera une application au plus dur, et systématiquement, il y aura des rejets. Et ensuite, tenir compte du niveau d'intégration, voilà, c'est le troisième, j'ai pris dans l'ordre évoqué, critère. Il faut s'engager, par contre, à respecter les principes de la République, donc liberté personnelle, liberté d'expression de conscience, égalité homme-femme, dignité de personne humaine. La devise et les symboles de la République, la laïcité, l'intégrité du territoire, donc il faut signer un contrat d'engagement. On porte une attention particulière à la maîtrise de la langue française, on ne le dit jamais assez. Ça, c'était déjà un point d'appréciation important, même s'il n'était pas spécifiquement visé par les textes. C'est maintenant indiqué à tout le moins dans la circulaire, et il nous faut, c'est vraiment un point qui est important. Donc la justification d'un diplôme français, d'une certification linguistique ou de toute autre preuve du maîtrise en langue française devra être apprécié favorablement. Donc, ça veut dire que c'est un point essentiel. Et on nous dit la qualité de l'intégration du demandeur est fortement liée à la durée de sa présence en France. Et c'est là que l'on nous dit qu'une durée de présence d'au moins 7 ans constitue l'un des indices d'intégration pertinents. Et donc, en dessous de 7 ans, je pense qu'il ne faudra pas rêver. Au-dessus, on commençait peut-être à avoir de vagues espoirs, mais on a vu que c'est l'un des indices pertinents. Donc, il y a tout le reste, l'intégration, le travail, la situation de famille, le respect des principes de la République, etc. Et absence de troubles à l'ordre public. On prendra également en considération, on considère que ça fait partie de la préservation de l'ordre public, l'existence ou non d'OQTF antérieure, ainsi que d'interdiction de retour sur le territoire français antérieur. Je fais attention au temps. Voilà, donc maintenant, lorsqu'on ne remplit donc pas les conditions du premier article, on peut se rabattre sur celui-ci, mais qui est particulièrement recentré sur une admission exceptionnelle avec des conditions plus strictes. Au demeurant, la précédente, je n'ai pas souvenir qu'elle ait été beaucoup appliquée, je parle de la Gironde, là où j'ai la meilleure expérience. Il paraît que dans d'autres régions, c'était peut-être un peu plus facile. Maintenant, c'est vraiment d'admission exceptionnelle. Pour revenir au texte, il y a deux autres textes, 435.2 et 435.3, pour terminer rapidement, sur l'admission exceptionnelle au séjour. Donc l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa, donc en gros ça va être Emmaüs, mais pas seulement, justifiant de 3 années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité, de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une garde à séjour temporaire, salarié, travailleur temporaire, vie privée familiale. Et le 435.3, c'est à titre exceptionnel. On a compris que c'est de l'admission exceptionnelle au séjour, hein, ça nous répétait à l'envi. L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance soit un tiers digne de confiance entre l'âge de 16 et 18 ans et qui justifie suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, donc on a le CAP, BEP, etc., peut, dans l'année qui suit son 18e anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire, salarié ou travailleur temporaire, sous réserve du caractère réel et sérieux de suivi de cette formation, encore apprécié, en gros, si vous êtes au bon élève ou pas, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de la vie de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Donc là, une appréciation globale qui est portée sur l'administration. Par l'administration, il vaut mieux avoir des études sérieuses, il vaut mieux avoir un bon rapport de la structure d'accueil qui n'est pas de bémol, puisque j'ai vu des situations dans lesquelles le moindre bémol, aussi modeste soit-il, et j'avais eu par exemple le cas d'un enfant, d'un jeune qui était considéré comme étant timide et réservé, et bien parce qu'il était timide et réservé, on a considéré qu'il était moins bien intégré que d'autres et que ça ne suffisait pas pour avoir le titre de séjour. Voilà, j'ai eu beau plaider, ça n'a pas changé sa situation, hélas. Manque d'empathie, donc des intervenants quand même, même s'il y a un certain nombre de titres de séjour qui sont accordés. Sur ce fondement que je n'ai pas le temps d'aborder plus longuement. Voilà, sur ce, même si c'était incomplet, sur ce genre de procédure, il faut toujours se faire conseiller sur les chances de succès et sur la manière de procéder, que ce soit par un avocat ou une association, en tout cas par un professionnel, qui permet, ce qui permet de maximiser les chances et de minimiser les risques réels de rejet. Voilà, sur ce, je souhaite à tout le monde un bon week-end pour ceux qui ne partent pas en vacances, de bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'y être, et à bientôt en tout cas.